Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le voir pour le croire, Ukrainiens et Occidentaux sceptiques après les annonces russes d'hier. Sur le terrain, ils ne voient pas de désescalade militaire. Nous serons à Kiev dans un instant. Quant aux négociations d'Istanbul, Russes et Ukrainiens en sont ressortis optimistes. Mais les demandes de l'Ukraine risquent d'avoir du mal à passer, on va l'entendre. 6 candidats devant les agriculteurs de la FNSEA aujourd'hui. Fabien Roussel en sera, qui se définit comme un coco-cocorico. Votre invité lui a décliné l'invitation des agriculteurs, mais il sera bien dans ce studio tout à l'heure.
Oui, c'est la suite de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est le candidat de l'Union Populaire à cette élection, Jean-Luc Mélenchon. Amis auditeurs, vous le savez, vous avez très largement la parole dans ces entretiens spéciaux. Alors j'attends vos questions. 01 45 24 7000 et l'application mobile de France Inter.
En Israël, c'est le retour de la menace attentat. 3 attaques en moins d'une semaine. Hier soir, 5 personnes au moins ont été tuées par un Palestinien dans la banlieue de Tel Aviv. Dans ce journal aussi, une nouvelle avancée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On sait désormais prédire comment elle va évoluer. Et puis, protéger les nuages. Projet poétique et politique dans une école et un collège de Seine-et-Marne. C'est un écrivain qui a eu cette idée pas si folle. On va le voir, on va le comprendre.
France Inter.
Que faut-il penser de cette séquence diplomatique après 5 semaines de guerre? La Russie qui promet de réduire radicalement son activité militaire autour de Kiev et dans le nord de l'Ukraine est comme un espoir d'accord à la sortie des négociations d'Istanbul hier entre Russes et Ukrainiens. Encore faudrait-il avoir confiance en Vladimir Poutine? Et ça c'est impossible, disent les habitants de Kiev, qu'a croisé Étienne Monin.
Avec sa veste marron et son oreillette noire, Oleg tord la joue quand on lui demande s'il croit qu'on est à un tournant du conflit.
Non. J'ai peur que ce conflit soit enlisé.
Il est chauffeur de taxi, mais il précise tout de suite qu'il est volontaire pour soutenir son pays. Et comme beaucoup d'autres, il ne fait pas confiance aux Russes. Il n'attend pas grand-chose des dernières déclarations.
La Russie et Poutine sont un pays et un homme qui ne s'arrêtent pas avant d'avoir fini ce qu'ils ont entrepris. Ils iront jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas les arrêter avec des négociations et un consensus.
Roman, plutôt jeune, les yeux bleus, lui dit qu'il suit les infos régulièrement des deux côtés. Il aimerait s'accrocher à un espoir, mais c'est encore un peu trop tôt.
Honnêtement, je doute que ça change.
Parce que c'est seulement Poutine qui prend les décisions et non la délégation des négociations.
Donc je n'y crois pas.
Depuis des jours à Kiev, on voit un assouplissement des contrôles. La pression diminue sur la capitale, mais d'après les soldats, les Russes sont toujours solidement installés au nord-ouest avec leur artillerie. Kiev, Gilles Gallinaro, Étienne Monin, France Inter.
Et de fait, l'état-major ukrainien parle de manœuvres russes pour tromper son armée. Quant au Pentagone à Washington, il ne voit pas de vrai retrait pour l'instant. Autrement dit, l'annonce russe n'aurait pas été suivie des faits. Écoutez Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
Il y a ce que dit la Russie et il y a ce que fait la Russie. Nous nous concentrons sur ce qu'elle fait. Je ne peux pas vous dire si ces déclarations reflètent une certaine réorientation de sa stratégie pour se concentrer uniquement sur l'Est et le Sud de l'Ukraine ou si c'est un moyen par lequel la Russie essaye une fois de plus de tromper tout le monde en faisant croire qu'elle fait quelque chose qu'elle ne fait pas.
Voilà, les Occidentaux attendent de voir. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien aussi, qui n'a pas l'intention de relâcher ses efforts militaires, mais qui note des signaux positifs après les négociations d'hier en Turquie. Même sentiment du côté des négociateurs russes qui parlent de discussions substantielles. Sauf qu'on a du mal à voir comment Vladimir Poutine et même les Occidentaux pourraient accepter la principale demande de l'Ukraine en échange de sa neutralité. Éric Biegala.
L'Ukraine demande que des pays tiers occidentaux ou autres garantissent qu'ils interviendront militairement pour venir au secours de l'Ukraine si le pays était à nouveau agressé. Les négociateurs ukrainiens l'ont précisé hier, l'Ukraine inviterait une dizaine de pays, les occidentaux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, mais aussi l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, le Canada, la Turquie et même Israël à l'appuyer militairement dans les 3 jours, possiblement en instaurant une zone d'exclusion aérienne, voire à combattre à ses côtés si la Russie faisait mine de réitérer une offensive, y compris une cyberattaque. En clair, il s'agirait d'un accord de défense dont les Ukrainiens demandent qu'il soit entériné par les différents parlements de tous ces pays, histoire d'en assurer la pérennité. Un accord gravé dans le marbre, donc, signé avec essentiellement des pays de l'OTAN et finalement plus contraignant que la défense collective de l'OTAN. C'est seulement à cette condition que les Ukrainiens accepteraient de ne pas intégrer l'OTAN. Bref, il s'agirait d'être défendu par les pays de l'OTAN sans en faire partie. Pas sûr que le distinguo puisse satisfaire la partie russe.
La proposition soumise à Vladimir Poutine, on verra ce qu'il en fera, comme on attend toujours qu'il permette aux civils de Mariupol de sortir de la ville entièrement détruite. Sa condition, c'est la reddition des Ukrainiens sur place, qu'ils déposent les armes. Donc pas de couloir humanitaire pour l'instant, ça n'est pas possible, a communiqué l'Elysée hier soir après un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
Il est 8h06, près de 30 000 Ukrainiens sont arrivés en France en 5 semaines de guerre, Florence.
Dont plus de 5 000 enfants et adolescents scolarisés dans les écoles, collèges et lycées français, accueillis à bras ouverts donc, sauf dans les administrations. Certaines demandes sont ubuesques. Faustine Calmel, en Lozère par exemple, on exige des réfugiés des documents qu'il est impossible à fournir.
Le 12 mars dernier, Fanny accueille chez elle Anna, sa fille Margarita et sa sœur Natacha. Depuis, elle les accompagne dans leur périple administratif à la préfecture.
Ça posait problème sur les passeports non biométriques. Il faut avoir un tampon Schengen pour pouvoir demander le titre de séjour provisoire.
Sauf qu'à la frontière ukrainienne, les services étaient saturés, 15 jours d'attente. Alors les réfugiés sont passés sans ce fameux tampon.
Ce qui nous a été dit, c'est qu'il fallait retourner à la frontière ukrainienne pour avoir ce tampon d'entrée sur l'espace Schengen. Mais vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Elles ont fait 2000 km pour venir en France pour se réfugier. Elles ne peuvent pas retourner là-bas. Pour elles, c'est très très angoissant, oui.
D'autres accueillants racontent hors micro les heures d'attente pour des demandes irréalisables. À force de discussions, la pensionnaire de Fanny a bien obtenu un titre de séjour, mais valable 30 jours seulement. Et elle doit d'ici un mois présenter un justificatif de domicile ukrainien.
Elles viennent de Kharkiv, donc la ville a été complètement détruite. Son mari est resté combattre avec sa belle-mère qui sont réfugiés dans les sous-sols. Enfin, ils ne pourront pas envoyer d'autres documents.
Et sans papier, impossible de travailler et donc d'être un minimum autonome. La préfecture de Lozère répond se conformer aux règles édictées par le ministère de l'Intérieur et qu'aucune difficulté dans l'instruction des dossiers n'a à ce stade été relevée.
Faustine Calmel, il vote Macron sans hésiter dès le premier tour. Willy Schren, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, estime que c'est le candidat qui met toute son énergie à répondre à ses demandes et qu'il n'a rien abîmé de la chasse pendant tout son quinquennat. La ruralité version agricole, c'est aussi le congrès de la FNSEA aujourd'hui. 6 candidats y déclineront leur vision de l'agriculture, dont Fabien Roussel, le candidat communiste avec son goût pour la viande et le vin français. Il est l'une des surprises de cette campagne en forme de renaissance pour le parti qui n'avait plus présenté de candidat depuis 2007, donné devant Anne Hidalgo dans les sondages, sans doute grâce à ses formules. Il tiendra ce soir à Paris un apé Roussel, Maxence Lambrec, pour combattre la morosité ambiante.
La France des jours heureux. Slogan audacieux placardé sur toutes ses affiches officielles où le rouge communiste a quasiment disparu, dégradé de violet et de rose autour de Fabien Roussel. Le signe d'un changement de ton. Depuis ce matin, une bande d'hurluberlus me cherche des noises parce que j'ai défendu la Marseillaise après la sécurité et la bonne bouffe, écrit-il sur Twitter. Lui qui se dit très attaché au drapeau rouge comme au drapeau tricolore, à la Marseillaise comme à l'international, se veut le candidat d'une gauche populaire, laïque, républicaine. Sous-entendu, celle que Jean-Luc Mélenchon ne porte plus. Contre toute attente, Fabien Roussel arrive à exister face à l'insoumis. Il fait la meilleure campagne, estime même un ministre. Il détonne sur le nucléaire, il y est favorable. Sur la sécurité, il est conscient de l'enjeu. Et pour le reste, c'est un vrai communiste. La retraite à 60 ans, la semaine de 32 heures, le SMIC à 1500 euros, 500 000 fonctionnaires en plus, 850 euros par mois pour tous les étudiants et le triplement de l'impôt sur la fortune. Fabien Roussel joue pleinement sa carte et aimerait convaincre autour d'un verre avec donc ses apés Roussel.
Maxence Lambrec, allez voter, expliquez à tous vos voisins que l'abstention c'est le vote Macron, déclaration de Nicolas Dupont-Aignan qui appelle à se débarrasser du président qui représente pour lui le cynisme, le mépris et la perversité politique à visage découvert. Autre titre Écho de campagne, signé Nathalie Arthaud. En attendant la baisse de 18 centimes sur le litre d'essence au 1er avril, après-demain, une petite ristourne, dit la candidate Lutte ouvrière. Mais les Français ne demandent pas la charité. Ils veulent vivre dignement de leur travail, d'où le SMIC à 2000 euros, principale proposition de Nathalie Arthaud. Mise en examen pour agression et harcèlement sexuel, le secrétaire d'État écologiste Jean-Vincent Placé sous contrôle judiciaire depuis qu'il est sorti du bureau du juge hier soir, accusé par d'anciennes collaboratrices. Il avait déjà été condamné l'an dernier pour harcèlement sexuel.
France Inter, il est 8h10. Pourquoi Salah Abdeslam est-il le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015?
La question lui sera posée aujourd'hui à la cour d'assises spéciale de Paris, puisqu'il a ce soir-là abandonné sa voiture, puis sa ceinture d'explosifs, après avoir déposé des terroristes au Stade de France et avant de rentrer en Belgique. Abdeslam était-il la dernière roue des attaques, intégrée au dernier moment dans le dispositif? C'est en tout cas Charlotte Pires qui a affirmé hier son copain d'enfance, Mohamed Abrini. Alors, on n'a pas Charlotte Pires. Hélas. Ah, on a Charlotte Pires.
Moi, je ne peux pas tuer des gens comme ça dans la rue, lance Mohamed Abrini à l'audience. L'homme au chapeau des attentats de Bruxelles était d'abord prévu, dit-il, pour faire partie des commandos du 13 novembre, mais il a refusé. Alors je suis sûr, explique-t-il encore, que Brahim Abdeslam, voyant qu'il avait un gilet explosif en plus, qu'il fallait un homme en plus, a dit à son frère Salah, tu fais partie du voyage. Traduisez, tu prends la place de Mohamed Abrini dans les commandos du 13 novembre. Une modification qui intervient quelques jours à peine avant les attentats, assure encore l'homme au chapeau, car initialement, Salah Abdeslam avait prévu de rejoindre les rangs de Daesh. Je le sais de sources sûres, martèle Mohamed Abrini. Son plan, c'était la Syrie. Mais quand Brahim Abdeslam dit quelque chose à son petit frère, Salah s'exécute directement. Ou presque. Car assure encore celui qui a été son ami et voisin pendant 25 ans à Molenbeek, moi, je savais que Salah Abdeslam ne le ferait pas. J'ai vu la détermination dans le regard de tout le monde, mais pas chez Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, qui sera interrogé sur ses déclarations aujourd'hui, avec la question prédominante de savoir si son gilet explosif a dysfonctionné ou s'il a renoncé à le déclencher ce soir-là.
Charlotte Pires, quand la police israélienne passe en mode contre-terrorisme, 11 morts depuis la semaine dernière au cours de 3 attaques. La dernière a eu lieu hier soir dans l'agglomération de Tel Aviv. Un tireur palestinien a ouvert le feu sur des passants. Il a tué 5 personnes. Les images ont tourné sur les réseaux sociaux et à la télé israélienne. Léa Lévy, médecin dans cette ville ultra-orthodoxe qui a été frappée, rentrait du travail juste avant l'attentat. Elle est profondément choquée.
On a énormément d'images violentes qui circulent. Finalement, l'attaque, je l'ai revécue parce que c'est une épicerie qui est en bas de chez moi. C'est des immeubles que je reconnais. C'est un endroit où je tourne tous les jours en voiture. On avait la croyance que Bnei Brak était une ville protégée. Et malheureusement, on se sent une ville comme une autre maintenant. Et on ne se sent plus du tout en sécurité. Bnei Brak, en fait, d'abord, c'est une ville où juifs et arabes cohabitent très, très bien. Il y a beaucoup de personnes arabes qui habitent en général la semaine pour des raisons de travail. Et ça ne pose absolument aucun problème. Et donc, on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un attentat ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a un policier qui est mort, qui est un chrétien. Malheureusement, le terrorisme vise les juifs, mais ne touche pas uniquement les juifs. Et finalement, les arabes, le peuple arabe, est également victime du terroriste. Et c'est un vrai choc pour les populations. Et je ne sais pas comment ce matin, on va se réveiller de cet attentat.
Témoignage au micro de Frédéric Mettezo. 1 million de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Et une avancée de la recherche. Les équipes de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et du CEA d'Orsay viennent de découvrir qu'elles pouvaient prédire l'évolution de la maladie avec une technique d'imagerie spécifique à Nuremberg.
Une fois le diagnostic d'Alzheimer établi, tous les patients posent cette même question. Comment la maladie va-t-elle évoluer chez moi? Sans marqueur de pronostic, c'est illusoire de vouloir y répondre. Certains vont se dégrader lentement, d'autres rapidement, mais impossible de les différencier. Jusqu'à ce que l'équipe du docteur Julien Lagarde se penche sur la quantité initiale de protéines tau anormales dans le cerveau. C'est de toute façon ce qui est recherché pour le diagnostic avec le PET scan.
On étudie la fixation du traceur tau à un instant donné, en début d'étude, plus la fixation est intense, plus on voit par la suite une évolution des symptômes chez des patients qui par ailleurs ont au début de l'étude un profil clinique qui est comparable.
Pour le neurologue et chercheur, cette avancée va permettre à la fois d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et d'espérer des avancées médicales.
L'objectif de tout ça est d'essayer de personnaliser au maximum la prise en charge des patients en essayant de mieux caractériser cette diversité qu'il peut y avoir dans la maladie, et donc d'aider à mieux anticiper les besoins. Ce type d'information peut aussi aider à mieux concevoir les études qui visent à développer des nouveaux traitements curatifs.
Les chercheurs pourront ainsi adapter les essais thérapeutiques en fonction de l'évolution prévue des troubles cognitifs de chacun des patients.
Anne Orenstein, 27 des 32 tickets gagnés pour la Coupe du Monde de foot l'hiver prochain. La Pologne de Lewandowski s'est qualifiée en battant la Suède de Zlatan Ibrahimovic hier soir. Ça passe aussi pour le Portugal de Ronaldo, pour le Cameroun, aux dépens de l'Algérie, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie. Pas aux dépens de l'Algérie, aux dépens de l'Algérie, l'Algérie, mais oui. Ça passe pour le Sénégal. Voilà. Question de virgule, le Maroc, la Tunisie et le Ghana. Puis hier soir, c'était un match amical facile pour les Bleus qui ont battu l'Afrique du Sud 5-0 à Lille. Enfin, si on protégeait les nuages.
Question magnifique.
Si on leur conférait un statut juridique, l'idée est très sérieuse. Elle a germé dans la tête d'un écrivain, Mathieu Simonet, qui a organisé hier une grande performance à Saint-Souplet, en Seine-et-Marne, avec les enfants de l'école et du collège du village. Geste poétique et revendicatif, puisque l'eau des nuages devient un vrai enjeu politique quand des pays comme la Chine n'hésitent pas à déclencher la pluie pour servir ses intérêts. Performance suivie pour nous par Rémi Brancato.
C'est d'abord un moment poétique, une contemplation, 600 enfants et adolescents couchés dans l'herbe du stade municipal, les yeux rivés au ciel.
Je vois un matelas moelleux, ça a l'air d'être confortable les nuages.
J'ai vu une mer en mouvement, c'était un voyage sans bouger.
On oublie souvent de se poser, de regarder les nuages.
Mathieu Simonet, écrivain en résidence au collège de Saint-Souplet, a demandé à chacun d'écrire ce qu'il a vu ou ressenti. Il collecte les messages, une pétition, dit-il.
Mon objectif, c'était de créer un geste poétique pour en faire un geste politique.
Le geste politique, c'est la lettre des élèves aux Nations Unies pour demander une convention internationale pour protéger les nuages.
Nous souhaitons proposer que le 29 mars devienne la journée internationale des nuages pour demander à l'ONU la mise en place d'un statut juridique du nuage.
Mathieu Simonet dénonce en effet la pratique de certains États qui déclenchent artificiellement des pluies.
Le danger, c'est qu'un pays se dise, puisque les nuages n'appartiennent à personne, je peux faire ce que je veux sur les nuages.
Faire pleuvoir chez moi plutôt que chez le voisin.
Exactement.
Alors, les 600 enfants se font passer la lettre de main en main.
On va la poster. Elle va servir à protéger surtout les nuages.
Une grande chaîne humaine poétique et politique. Des collégiens ambassadeurs des nuages la porteront vendredi à l'UNESCO.
Bravo vous deux.
Voilà, sauver les nuages qui n'appartiennent qu'au ciel. Sujet signé Rémi Brancato.
Merci Florence Paracuelos. Les nuages avec Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Marie-Pierre, gris, c'est gris.
Eh oui Nicolas, le soleil se cache sous toute cette grisaille généralisée car nous avons deux perturbations et des averses qui se sont rejointes. Celle du nord-ouest qui s'étend de la Bretagne à la Lorraine au bassin parisien et une dépression du sud qui remonte du sud-ouest à l'Alsace en passant par le massif central et avec de la neige sur les Pyrénées et les Alpes des 1600 mètres. Et puis on a une autre dépression aussi qui arrose la Corse. Et ce matin, avec tous ces nuages au plus bas, il fait 3 en Sologne, 4 en Lozère, 10 à Paris et Lyon et 14 à Menton et Calvi.
Et même schéma cet après-midi.
Oui, le temps va rester perturbé avec des pluies, des averses du sud-ouest au nord-est. Ça deviendra orageux en Corse, mais aussi de la Normandie au bassin parisien à la Champagne. En revanche, un temps plus sec reviendra avec des éclaircies entre la Manche et la Belgique et les températures vont continuer leur baisse pour retrouver des valeurs de saison. Au plus bas, il fera 9 à Mout dans le Doubs, 10 à Dunkerque, 11 à Rouen. Vous aurez 13 à Paris, 14 à Toulouse, 17 à Montpellier, 18 à Porto Vecchio.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.